Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre du programme Nation Apprenante, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, nous vous invitons tous les jours à 11h à plonger dans le portrait biographique et documentaire d'une femme ou d'un homme d'exception. Entre découvertes, connaissances et émotions, nous nous engageons sur la piste de toutes celles et ceux qui nous ont laissé une trace durable et inspirante. Grandes figures littéraires, grands penseurs ou grands personnages historiques, bienvenue dans toute une vie.
Une vie, une œuvre. Romain Gary, L'insaisie, par Nancy Houston.
Ma mère était assez légendaire. Je veux dire qu'elle était assez fortiche pour fabriquer de légendes. Alors, d'après ce que je sais, d'après ce qu'on m'a dit, nous allions de Moscou à Paris, Moscou, Varsovie et Paris, pour que ma mère accouche. Parce que vous savez que ma mère était atteinte de cette maladie dont était atteinte souvent l'Europe à l'époque, jusqu'au 19e siècle, tournant au début du 20e, une francophilie galopante, un gendarquisme typique notamment des juifs de l'Europe de l'Est. Et elle voulait accoucher en France pour que je sois plus français. C'est le même coup de mon catholicisme, vous comprenez. C'est la même chose, la conversion à la religion catholique, sans aucune raison, parce qu'enfin, il n'y a personne de catholique dans la famille, ni du côté juif, ni du côté grec-orthodoxe. En tout cas, bref, j'y suis né dans une petite clinique, à côté du théâtre polonais, d'un théâtre à Vilno, parce que ma mère se sentait, dit-elle, mal, elle a dû s'arrêter à Vilno, mais je me demande si c'était tout simplement pour s'excuser auprès de moi de ne pas m'avoir fait naître en France. C'est tout à fait possible.
Parents, mère, actrice de deuxième ordre à Moscou, professionnelle du faire-semblant. Elle a épousé un type nommé Katchev avant ma naissance. Je m'appelais donc Katchev, l'a divorcé après. Faisant comme si, pourquoi, pour qui? Man's but a poor player. Donc maman, une pauvre comédienne. Papa, peut-être non pas Katchev, la nullité, mais Ivan Mozhukin, plus grand acteur russe vivant. Un riche comédien. C'était peut-être lui qui, sporadiquement, au long des années, venait à la rescousse de Nina, ma mère, en lui envoyant des mandats quand sa misère était à sa plus crasse.
Nous sommes avec Roger Grenier dans un café qu'affectionnait Romain Gary, dans la rue du Bac même, juste en face de sa maison. Est-ce que vous pouvez nous raconter la première rencontre, votre première rencontre, Roger Grenier, avec cet écrivain ?
Ma première rencontre, j'étais journaliste, il arrivait des États-Unis, il y avait eu des tas d'histoires, là, des gossips, comme il disait, sur les racines du ciel, en disant qu'il avait fallu réécrire ce livre, que c'était Camus et le marchand qui avaient réécrit le livre parce que lui, il ne savait pas le français. Et on a parlé de ça. Mais enfin, je ne considère pas ça comme une rencontre. J'ai vraiment connu après. Quand j'étais chez Gallimard, c'est-à-dire à partir de 1963-64. Et là, on est devenus très amis. En plus, on est devenus voisins. Et il n'y a pas de jour, dans le fond, où je ne rencontrais ou Gary, ou Gene Seberg, ou qui continuait à habiter à côté, ou l'enfant, ou les chiens même. Lui, il ne promenait pas ses chiens, là. Il y avait la gouvernante là, qui promenait les chiens. Moi, je promenais le mien. Alors, en général, je tombais sur Gary au carrefour de la rue du Bac et de la rue de Varennes, devant ce barrage de police là, où il y a des gardes mobiles qui gardent l'hôtel Matignon, là, la résidence du Premier ministre. Alors, Romain appelait le chien qu'il connaissait bien, qui aussitôt venait lui faire fête, et puis on bavardait. Il dormait peu, il était insomniaque, alors il sortait tôt le matin comme ça pour acheter le journal et pour aller prendre un café dans l'endroit où nous sommes actuellement. Et alors, je voyais que pendant que nous discutions, les flics qui gardaient Matignon, là, le regardaient en disant « qu'est-ce que c'est que cette espèce de clochard ?» parce qu'il était accoutré de façon impossible avec vieux battle dress. Et surtout un feutre absolument informe, mais qu'il gardait parce que c'était un cadeau de John Ford. Qu'il considérait comme un fétiche. Et je m'étais toujours dit, une fois que Gary sera rentré chez lui, je vais me payer un flic, je vais lui dire, voyez, vous étiez en train de rire de cet homme, mais il est ambassadeur de France, compagnon de la Libération, officier de la Légion d'honneur, prix Goncourt. Enfin. Puis je ne l'ai jamais fait, je le regrette d'ailleurs.
enfance. Née en 14, alors que voulez-vous, grande guerre, révolution russe, fuite, exil, etc., etc. Mes premiers souvenirs datent des années qu'on a passées à Vilno et à Varsovie. On était pauvres. On était pire que pauvres, on était juifs. Je vous interdis de me prendre en pitié.
Je comprends parfaitement les gens qui répondent « je suis breton, je suis corse, je suis normand » et tout ça veut dire qu'on est français. Alors donc pour moi, la communauté humaine, c'est la plus petite communauté humaine. Alors si vous j'ai envie de vous répondre « est-ce que vous êtes français ?» je dirais « je suis bacchiste, je suis de la rue du Bac ». Vous voyez ce que je veux dire, mon attitude? Mais cosmopolite, citoyen du monde, mais enfin qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, des voyages, du tourisme. Ou alors que vous sympathisez avec la souffrance du Bangladesh et les trucs comme ça, évidemment. Alors, si on va jusque-là, on dit « je suis un homme, je suis membre de la communauté humaine, il n'y a pas de nation, il n'y a pas de monde, il n'y a rien ». Dans la mesure où on parle d'appartenance, on ne parle pas d'Europe, on ne parle pas du monde, on ne parle pas du cosmopolitisme, on parle d'un petit trou quelque part.
Svitan Todorov, quelle est la place qu'occupe Romain Gary dans la littérature française de la deuxième moitié, disons, du XXe siècle?
Eh bien, je pense que il faut commencer par affirmer une chose qui n'est pas évidente, à savoir qu'on dispose en la personne et l'œuvre de Gary d'un des, disons, cinq plus grands écrivains français du siècle. Il y a toujours quelque chose de légèrement comique de nommer un certain nombre d'écrivains, d'établir un classement, mais je pense que ce que Gary a apporté à la littérature française peut se comparer à très peu d'autres écrivains, et qu'il mérite une place parmi les toutes premières, une place qu'il ne possède pas du tout, pour l'instant, dans l'opinion publique. Il faut donc s'interroger tout de suite, avant même de dire positivement en quoi consiste cette place de Gary, il faut s'interroger sur les raisons qui font qu'il ne l'occupe pas. Je pense qu'il y a au moins deux raisons. L'une, c'est qu'il y a chez Gary quelque chose d'excessif, de débordant. Gary est toujours un peu dans le trop. À la différence d'autres grands écrivains, il n'a pas su se concentrer dans une œuvre ou dans deux. Vous savez, comme on peut dire que Camus s'est donné dans L'étranger, la peste, et puis c'est tout Camus. Eh bien, Gary a écrit, c'est même difficile à compter, probablement autour de 25 romans, plus une dizaine d'autres livres de fiction, de théâtre, d'essais. Et cette dispersion même, mais qui est très caractéristique du personnage, fait qu'il est difficile de choisir une œuvre et de dire « voilà, c'est cela que Gary laisse pour la postérité ». La même chose se répète à l'intérieur de chaque œuvre. Là aussi, les œuvres souffrent un peu d'un trop. Leur manque unique, je dirais, c'est qu'il n'y manque rien. C'est qu'au contraire, quelqu'un aurait peut-être dû, un éditeur amical et exigeant, aurait dû les amaigrir un peu, les rendre plus laconiques. Ces œuvres sont toutes un peu trop longues, un peu répétitives, avec des passages dont on se dit que, ma foi, si on l'enlevait, ça rendrait l'œuvre encore plus belle.
Je crois que le sens de ma vie, ça a été vraiment le sens profond. Ça a été deux amours. Un amour total, dévorant, monstrueux par son exclusion de tout le reste. Monstrueux par son amour, c'est la littérature, le roman et la création littéraire, qui me rend tous les engagements, tous les autres engagements, extrêmement difficiles et qui me donne un air absent. Et deuxièmement, enfin, mon amour de la féminité, je ne dis pas des femmes, je fais véritablement une sorte de mystique de la féminité, puisque je passe mon temps à réclamer ce qu'on appelle la féminisation du monde.
La seconde raison, et je crois un certain anachronisme de Gary. Je crois que Gary a vécu qu'il est mort un peu trop tôt. Il a vécu dans l'immédiat après-guerre, qui était une époque de confrontation idéologique et de terrorisme théorique. Or, Gary refusait radicalement l'embrigadement sous la bannière d'une quelconque idéologie, d'une part, et il refusait de soumettre l'œuvre, la création, à une quelconque théorie. Donc, il était tout à fait mal placé à son époque, qui n'avait pas envie d'entendre de tels propos. Mal placé, j'entends uniquement auprès des grands Manitou qui décidaient de la mode et des valeurs officielles, mais pas auprès du public, puisque le public l'a reconnu et que ses livres sont vendus à des centaines de milliers d'exemplaires. Sont donc, Gary est un des écrivains les plus lus, sans aucun doute. Mais il n'est pas des plus estimés.
Je sais que Romain savait que je voyais très souvent de Beauvoir et quelquefois Sartre à cette époque-là.
Alain Abdeckmann.
Pour des raisons militantes, j'allais dire, en Algérie, quand je suis revenu en France. Et Romain m'a souvent parlé de l'injustice terrible qui lui avait été faite par justement les représentants éminents de la pensée dominante. Parce qu'il avait été très très chouchouté à l'époque d'éducation européenne, parce que l'éducation européenne était tout à fait dans le schéma, si je peux dire, de la bonne gauche. Ça correspondait tout à fait à la pensée. Et puis, Tulip aussi. Et puis après, tout d'un coup, le fait qu'il ne soit plus apparemment cet émigré et qu'il soit devenu un officier français, puis après membre du corps diplomatique, l'a fait rejeter. Et ça, c'est une chose qu'il a très très mal supportée. Enfin, en fait, je pense que je dis ça posteriori, parce que je pense que ça aussi, ça a fabriqué Ajar.
Mais plus concrètement, est-ce que Beauvoir elle-même, ou Sartre lui-même, lui ont fait des reproches ?
Il ne disait plus bonjour. Ah, il ne saluait pas. Il était hors question, c'est de salir les mains. Vous savez, la gauche est très propre, hein. Elle déteste salir les mains. Elle ne les met jamais dans le cambouis.
Un autre aspect de ce même anachronisme, peut-être, est que Gary était un mélange tout à fait exemplaire de sources et d'origines diverses. Et je pense que ce thème du métissage culturel, de la rencontre des cultures, du croisement de différentes sources, tout cela qui est devenu un aspect intéressant et vivant de la culture d'aujourd'hui, était réalisé par Gary il y a bien longtemps. Car il faut le rappeler, le cas est suffisamment rare pour être vraiment mis en valeur. Gary a grandi dans une première langue, qui était le russe. Il a étudié dans une seconde, qui était le polonais. Il a écrit essentiellement en français, mais il a également produit plusieurs livres en anglais. Je crois qu'il existe peu d'exemples dans l'histoire de l'humanité d'un écrivain aussi polyglotte. Il parlait sans doute toutes les langues en faisant des petites fautes et avec un certain accent, mais il les maîtrisait parfaitement, comme en témoignent ses amis. Du point de vue culturel, on pourrait dire la même chose. Il a un côté grand russe, il a un côté juif polonais, il a un côté français de souche, il a un côté baroudeur américain, et tout cela forme un étonnant mélange, mais qui était peut-être venu trop tôt aussi pour la sensibilité littéraire qui régnait en France jusqu'à une certaine époque, pendant que la critique s'intéressait à son œuvre.
J'ai une tête qui, à mon avis, ne correspond vraiment pas à ce que je suis à l'intérieur. Et il y a eu à cela plusieurs raisons. D'abord, le mélange des sangs, des ascendances tartares, qui sont expliquées autrement dans le contexte occidental. Lorsque vous voyez, mettons, en Orient, en Russie, un type un peu tartare, bon, c'est un type un peu tartare. Mais ici, on l'interprète en termes de caractéristiques morales et psychologiques françaises, occidentales. Dureté, cruauté, sauvagerie, indifférence. En plus de ça, la suite de blessures de guerre, j'ai une paralysie faciale qui me rend le sourire extrêmement difficile, je n'ai pas de nerfs du côté gauche. Et finalement, il y a, comme vous dites, ce teint qui est également probablement d'origine de l'Europe de l'Est, un peu cuivré. Et j'ai, autrement dit, une tête que l'on juge sur son apparence extérieure. Et on ne tient naturellement compte dans la vie que de l'étalage.
Avec un nom comme Romain, je n'avais guère le choix. Ma spécialité serait le roman. J'ai publié une trentaine de livres en 36 ans. Hormis mon pseudonyme initial de Gary, qui signifie « brûle » en russe, j'ai écrit 6 romans sous 3 autres pseudonymes. J'ai également écrit 6 romans directement en anglais, ma 4e langue après le russe, le polonais et le français, sans parler de plusieurs centaines d'articles pour des journaux américains, une 20aine de scénarios à Hollywood. Je ne me vante pas. Il n'y a jamais de quoi se vanter.
Jacques Régnier, dans ce roman, c'est un homme à 60 ans, de 60 ans, qui vit une grande histoire d'amour, très tendre. J'ai mis toute la tendresse que je pouvais, tout l'amour que je pouvais pour le personnage de la femme, et qui n'a en effet plus les moyens de garçon de 20 ou 30 ans. Mais il n'est, par exemple, pas impuissant, mais pas du tout, ça ne lui suffit pas. Il veut être tel qu'il était à 20 ans. Il a investi dans son corps à 20 ans, à 30 ans, il ne veut pas s'en dessaisir. C'est le déchaînement de possession matérialiste du monde, de la vie, où on ne veut lâcher prise en rien, pour rien, jusqu'au bout, jouir à tout prix, par n'importe quel moyen, y compris à la fin, par l'artifice de l'intrusion du fantasme qui devient réalité, c'est-à-dire le troisième partenaire. Or, qu'est-ce que devient ce fantasme ? Qu'est-ce que c'est dans mon roman, ce fantasme du troisième homme qui devient troisième partenaire, qui devient réalité ? C'est un artifice, c'est une prothèse. Et ce que j'ai voulu exprimer ici, et j'y tiens beaucoup, c'est que toute notre civilisation, dite qui attache un tel prix à la virilité, est de plus en plus une civilisation de substituts, d'artifices, d'ersatz et de prothèses.
Quand il a écrit, tout le corps était secoué. Au commencement, ça veut dire, quand il a commencé, quand il a écrit ses premiers livres, il était convulsé. Sa tête était comme un...
Leslie Blanche Gary.
Comme une poupée qui...
Une marionnette.
Oui, qui tourne, qui balance tous ses mèches de cheveux et flirtait comme ça. Il était possédé. Il a écrit comme quelqu'un possédé. Quand il a écrit le Promesse de l'aube, qui était pour moi son meilleur livre, je trouve que c'est absolument superbe. Lui, il était vraiment possédé. Nous étions en Mexique ensemble et il a commencé, page one. Il a commencé, il n'a pas arrêté jusque le jour de notre départ. En 2 semaines, il n'a jamais parlé, n'a jamais descendu de l'hôtel qu'une fois. Et en rentrant, il a continué. Et là, il m'a donné page par page par page. Il m'a poursuivi dans la maison ou dans le jardin avec ses pages. Et on a l'impression que le page fumait avec la passion qu'il a mis là-dedans. Et après ça, son caractère était totalement changé. Après ça, il a dit tout. Tout ce qu'il a caché peut-être avant. Et après ça, il est devenu une autre personne. Pas plus heureuse, mais très arrogant. L'homme était changé, libéré par ça. Après ça, he owed nothing to anybody.
Ne devait plus rien à personne.
Oui. Il n'a rien à cacher. If you don't like it, fuck it.
Gary était animé d'un amour inextinguible pour l'humanité, mais ce n'était absolument pas l'humanité avec un grand H, c'était l'humanité telle qu'elle s'incarne dans une multitude d'êtres humains profondément médiocres. Et il faut tenir ensemble les deux éléments de cette affirmation, la médiocrité des êtres humains leur imperfection constitutive, leur impossibilité d'aller au-delà de leurs forces qui sont assez limitées. Et en même temps, cet amour que rien ni personne ne pouvait éteindre. Du coup, Gary a parfois formulé cette position en termes d'un éloge de la faiblesse. Il écrivait dans un de ses livres « Toute mon œuvre est faite de respect pour la faiblesse ». Et il a développé cette idée en affirmant, peut-être de façon un peu simpliste, mais néanmoins assez parlante, que tous les malheurs de l'humanité venaient de sa fascination pour la force, incarnée notamment dans les valeurs viriles, dans le machisme, dans le désir de s'emparer du pouvoir, d'être le plus grand, le plus fort, tout cela. Et puis, ce à quoi s'opposait une morale des faibles, souvent chez Gary, l'éloge du féminin, de la tendresse, de la sympathie, du vivant qui est aussi mortel, par opposition à l'immortel. Et puis même cet homme pour qui ne laissait aucune place à Dieu dans sa pensée, il disait une fois, quand on lui demandait « Quelle est la place de Dieu pour vous ?» il répondait « Je ne m'intéresse pas aux résidences secondaires. » Cet homme donc avait une passion pour Jésus, car Jésus-Christ lui paraissait l'incarnation de la faiblesse, de ce principe féminin qui le fascinait tant. Découlait de ce choix une compassion sans limite pour les victimes, pour les faibles, pour tous ceux qui avaient perdu dans la vie, qui allait jusqu'aux animaux. Et Gary, là aussi, disait avec beaucoup d'humour qu'il avait le malheur de s'identifier à tous les animaux, mais il ajoutait, par contre, il m'est assez indifférent de penser qu'on tue les poulets. Je n'arrive pas à m'imaginer dans un poulet. Je trouve que cette façon qu'avait Gary de terminer une tirade héroïque par une phrase qui pointait sur vers une autodérision est très caractéristique de lui et transmet très bien son refus de tout esprit solennel, même sur les sujets qui lui étaient les plus chers.
Il y a une absence de féminité dans notre civilisation qui est effrayante. Je ne veux pas me lancer dans des propos religieux, d'autant plus que je suis un croyant. Mais si vous regardez la parole du Christ, elle était essentiellement féminine. La voix du Christ était une voix de femme. Tendresse, pitié, amour, bonté, pardon, du moins au sens, je m'empresse de le dire, traditionnel que l'on donne au mot féminité. Eh bien, ces vertus chrétiennes de la parole du Christ, ces vertus féminines, sont totalement absentes de 2000 ans de notre civilisation. Je crois qu'il est grand temps que, en dehors même de liberté, de droits égaux qui sont évidents, il y a une participation de la femme sur le plan de la transformation des valeurs dites masculines en valeurs féminines. Et c'est pourquoi je ne comprends pas les mouvements féministes qui se réclament d'une sorte de masculinité à part égale avec les hommes. Ils devraient, au contraire, se retrancher de plus en plus et élaborer des valeurs féminines pour en féconder notre civilisation. Mais c'est sans doute une vue un peu trop idéaliste des choses.
Pas dire du tout que Romain ait été un hédoniste. Absolument pas. il menait une vie extrêmement sobre. Et son seul côté dionysiaque, c'était les femmes. Curieusement, le Bacchus n'intéressait pas beaucoup, le vin ne l'intéressait pas, la bouffe ne l'intéressait absolument pas. Donc, en fait, quand on voyageait ensemble, puisqu'on a voyagé ensemble aux États-Unis, c'était un transport. Je veux dire par là que, en vérité, il ne regardait pas beaucoup les choses. Il était très solitaire, Romain, et très replié sur lui-même. Il n'avait pas du tout une espèce d'ouverture comme ça, une espèce de jouissance de vie. Non, la jouissance, c'était la conquête. Et en même temps, c'était quelqu'un qui avait très peur de l'extérieur et très peur des femmes aussi. C'est quelqu'un qui était obsédé, par exemple, par la maladie. Il était obsédé par les maladies sexuelles. Et le sida n'existait pas à l'époque. Et je me souviens, aussi bien aux États-Unis que rue du Bac, chez lui, dans sa salle de bain, et en Espagne, où j'étais, il avait une grande baignoire avec les choses autour, et il y avait des quantités de médicaments, mais absolument fantastiques, qui étaient des pommades pour pas attraper, alors comme si ça allait empêcher de l'attraper la blénorragie, ou des trucs pour s'astiquer la bite, pour pas être malade. Et alors qu'il ne pensait qu'au coït, en même temps, il était horriblement, chaque fois, angoissé à l'idée qu'il se détériorait, en fait. Je pense qu'il y a l'idée que quelque chose pouvait l'atteindre dans son physique. Je crois que c'est un truc très important. C'est que Romain était quelqu'un qui vivait dans une très grande peur, en vérité.
L'œuvre de Gary est si abondante qu'il faut nécessairement la partager en quelques ensembles. Il y a d'abord, pour moi, celui qui est le plus simple, le plus facile à décrire, l'ensemble des essais. Ce sont jamais des essais abstraits, des traités systématiques, mais quelque chose qui se situe à mi-chemin entre l'œuvre autobiographique et la conversation à bâton rompu, les mémoires ou le coup de gueule même. Le premier de ces textes, mais c'est un chef-d'œuvre, c'est La promesse de l'aube, un des plus grands essais autobiographiques du XXe siècle, qui me semble, par exemple, tellement au-dessus des mots de Sartre, qui est pourtant la plus grande réussite esthétique de Sartre. La promesse de l'aube, donc, qui est un hymne fabuleux à l'amour maternel, qui est un récit désopilant de l'enfance d'un pauvre petit juif russe, puis polonais, dans la Russie, en Pologne, puis dans le sud de la France, un récit vibrant de l'héroïsme quotidien et nullement gonflé, nullement vantard des héros de la première heure de la résistance et des combats de la France libre de Londres, une réflexion sur la littérature, sur l'amour, bref, un chef-d'œuvre. Gary a continué d'écrire de tels livres qui ne sont peut-être pas tout à fait à la hauteur de La promesse de l'aube, mais qui restent du plus haut intérêt. Je voudrais mentionner, par exemple, Le chien blanc, un essai écrit en 1968 à chaud, si l'on peut dire, sur les événements, mais non pas tant les événements de mai 68 en France, bien qu'ils y soient présents aussi, que sur les conflits raciaux qui bouleversent l'Amérique à cette époque. Et je pèse mes mots, je ne connais pas d'essai consacré au thème de conflits raciaux qui soit aussi juste que celui de Gary. Gary parvient à décrire le combat des Black Panthers, des différents groupes extrémistes américains, à la fois dans toute leur misère et avec toute la sympathie et compassion à laquelle seul un être comme lui devait pouvoir être capable. Car c'est cela le caractère étonnant de son analyse, c'est que il juge souvent négativement, il n'est d'accord en rien avec ses interlocuteurs, et pourtant, il les comprend jusqu'au bout. Il parvient donc à dissocier parfaitement sa compréhension humaine de son jugement sur le fond Et cela nous avance infiniment dans la voie de la solution de ce problème, si solution peut y avoir. Il y a ensuite « La nuit sera calme », 5 ans plus tard, qui est un livre qui souffre, à mes yeux, de ce qu'il soit organisé par son interlocuteur, car il s'agit d'une série d'entretiens que François Bondy, un intellectuel suisse et français important, mais qui était aussi un camarade de classe de Gary, a mené avec lui. Or, Bondy adopte, sans doute croyant bien faire, une position négative, hostile, persifleuse tout au long du livre. Et donc Gary se trouve amené à se défendre plutôt que parler librement. Mais très souvent, les formules qu'il a du bonheur, de l'amour, de l'écriture, sont ce que Gary a fait de mieux dans le genre. Enfin, il y a un essai aussi consacré à la littérature, qui est pour Sganarell, un essai particulièrement volumineux et qui aurait pu profiter des ciseaux peut-être d'un éditeur bienveillant, mais qui n'est pas moins intéressant car Gary défend là-dedans une position complexe. Il se bat en quelque sorte sur 2 fronts. D'abord contre l'idée d'une soumission de la littérature à la politique ou à la morale. C'est en somme le combat avec la littérature engagée telle que la prône, même s'il ne la pratique pas, Sartre. Car, réplique Gary, il y a plus de politique et plus de morale dans une œuvre qui ne s'en soucie pas que dans une autre qui veut s'y soumettre. Mais c'est aussi un combat contre les nouvelles versions de l'art pour l'art, c'est-à-dire à l'époque le nouveau roman et le structuralisme, qui exclut l'homme, exclut les valeurs, exclut les sentiments, exclut le personnage, l'action, exclut presque tout dans un étrange rêve ascétique. Et contre eux, Gary demande ce qu'il appelle le roman total, c'est-à-dire le roman aussi riche, aussi immense que la vie.
Enfin, son ambition, ça aurait été d'être Camus plus Malraux, quoi.
Est-ce qu'ils se voyaient comme un peu leur inférieur?
Je ne pense pas. Mais je pense qu'il a été... C'était très bon pour lui que, dès ses premiers livres, il a été reconnu par Camus, aidé par Camus, que par ailleurs, pour d'autres raisons, là, un peu, qui touchent davantage quand même au gaullisme, il a été soutenu aussi par Malraux. C'était vraiment très bien pour lui.
Et vous dites qu'il avait besoin d'écrire, qu'il écrivait tous les jours, quoi qu'il arrive. Est-ce que le succès littéraire était important pour lui?
Bon, je crois que là, il y a eu un de ses drames, c'est-à-dire que... il a eu du succès, ses premiers livres ont été remarqués, il y a eu Les Racines du Ciel, qui ont eu le prix Goncourt, et puis qui était considéré comme un livre important. Et puis, les années passant... Il s'est dit, bon, ben ça y est, on m'a catalogué, on m'a étiqueté. Les critiques disent, bon, ben voilà un nouveau livre de Gary, on sait ce que c'est, bon, passons. Et il a souffert de ça, ce qui est une des explications du pourquoi il s'est lancé dans l'aventure Ajar. Moi, j'ai l'impression qu'il n'a pas arrêté d'essayer comme ça de se remettre en question et de faire des tests pour savoir si on le lisait vraiment, si on l'appréciait vraiment. Bon, on parle beaucoup de l'histoire Ajar, que j'ai vu de près. Mais il y a d'autres exemples de mystification littéraire qu'il a commises. Il y a ce livre-là qu'il n'a pas signé parce qu'il était haut fonctionnaire à ce moment-là, qui était sur l'ONU. Ensuite, il a eu cette expérience-là de ce livre signé Chatham Bogat, qui était très amusant, qui s'appelait « Tête de Stéphanie ». Et d'ailleurs, là, quand il a vu que ça avait du succès, il a dit « Ah ben, c'est moi, hein ». Mais il a encore fait un autre coup. Je crois que le dernier livre qu'on a publié de lui, chez Gallimard, qui s'appelle « Les clowns lyriques », je l'ai lu, un autre lecteur l'a lu. Et tous les deux, on a dit, mais en fait, c'est les couleurs du jour, c'est la même chose. Voilà, cas de conscience. Bon, est-ce qu'on lui dit, mais écoute, tu te fiches de nous, là, c'est les couleurs du jour, tu as changé le titre et très peu de choses. Ou bien est-ce qu'on fait semblant de rien et est-ce qu'on dit rien? Et dans les deux cas, on était piégés, parce que si on lui disait, il risquait de se vexer. Si on ne lui disait pas, il dirait, ouais, mon éditeur lui-même ne connaît pas mes livres, on ne connaît pas mon œuvre. On a quand même choisi cette solution-là, et évidemment, il n'a pas manqué de faire remarquer que c'était quand même un peu les couleurs du jour. Donc, il cherchait tout le temps à se mettre ou à nous mettre à l'épreuve.
Titre de gloire. J'aimais à égrener, tel un chapelet, la série de beaux bijoux que la vie m'avait donnés. Compagnon de la Libération, commandeur de la Légion d'honneur, prix Goncourt, premier consul de France. Tel un chapelet, comme s'il s'agissait de syllabes apprises par cœur et dépourvues de sens. Mais en fait, tout cela m'importait énormément. Pourquoi seulement consul? Pourquoi pas ambassadeur? Pourquoi seulement Goncourt? Pourquoi pas Nobel? Pourquoi seulement une personne? Pourquoi pas deux?
Paula Jacques, je crois que vous n'avez pas connu personnellement Romain Gary, mais vous avez un rapport assez fort à lui, puisque vous étiez mêlée à cette histoire, à l'histoire Émile Achard.
En fait, je n'ai jamais connu personnellement Gary, mais j'ai constamment entendu parler de lui pendant un certain temps, puisque moi, je suis rentrée au Mercure de France grâce à Paul Pavlovitch, qui était à l'époque donc Achard, l'écrivain génial, et que pour moi, c'était un éblouissement de penser que j'avais été découverte par un génie, en quelque sorte, et que ce génie était donc le neveu de Gary. Et bien entendu, je lisais tous les livres d'Achard à l'époque, dont Pseudo, qui m'avait beaucoup bouleversée, parce que je me faisais de Gary une image qui était celle d'un vieil homme acariâtre, jaloux de son neveu, plus beau, plus talentueux, et qui n'avait qu'une idée en tête, c'était de démolir son neveu, ainsi que c'est dit dans Pseudo. Et je méditais beaucoup sur cette affaire, c'est-à-dire le génie déclinant du vieil homme, et puis l'espèce de soleil montant du neveu, et je trouvais que c'était une histoire merveilleuse. Et puis, bien entendu, nous parlions beaucoup de Gary avec Pavlovitch, et moi, j'avais pour Gary le plus grand mépris. Je l'avoue, je n'avais pas du tout envie de lire ses livres, je me disais, il n'y a absolument rien à en tirer. Et puis, il y a eu cette espèce de choc extraordinaire, la découverte que mon premier livre était paru, ça s'était bien passé. Et je dois dire qu'Achard, Paul Pavlovitch, était un merveilleux directeur littéraire. C'était un homme qui me consacrait beaucoup de temps, qui lisait mes pages très très attentivement, avec des expressions très justes. Et j'étais absolument fascinée par Pavlovitch, je dois le dire, et peut-être même un petit peu amoureuse de lui. Donc, je suis en vacances, je suis en train d'écrire mon deuxième livre, et je reçois une carte postale de Paul, que nous appelions Paul Achard, qui me dit « je vais sortir un livre, mais ne t'inquiète pas, je ne serai pas en concurrence avec toi ». Alors je ne comprenais plus rien, je dis « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Le maître qui dit ça à sa disciple, je dis « mais... » Enfin, pour moi c'est un personnage très bizarre, Pavlovitch, très intrigant. Je le soupçonnais d'être un peu, très secret évidemment, mais d'être un petit peu pervers, mais je ne savais pas très bien comment ça se manifestait. Et je me dis « mais il est en train de se moquer de moi, il est en train de se moquer de son élève ». Et le lendemain, à la télévision, il y avait donc l'apostrophe, et je découvre avec stupéfaction Paul parlant de son livre « L'homme que l'on croyait ». Et pour moi, c'est un choc tellement violent que je me dis « non, c'est impossible, je n'arrive pas à y croire, c'est peut-être encore une ultime pirouette d'Achard ». Et je fais une chose absolument stupide, c'est-à-dire que j'écris à Paul en lui disant « Je suis bouleversée de t'avoir vu raconter ça, c'est terrible ». Et puis je mets un post-scriptum machinal en disant « À la réflexion, je n'y crois pas, je pense que c'est encore un de tes tours ». Et là, plus de réponse. Et puis quelques temps plus tard, bon, je finis par admettre qu'effectivement, Achard n'existe pas. Et là, je commence à m'intéresser beaucoup à Romain Gary. C'est-à-dire que je commence à lire certains livres que j'avais lus précédemment, à lire sa dernière production. Et puis, je m'aperçois d'une chose d'abord, c'est que toute la production signée Achard me passionne beaucoup plus que l'autre. Elle est beaucoup plus forte, plus violente, plus inventive, plus créative. Et que parallèlement aux livres signés Achard, il y a des livres signés Gary qui paraissent, comme je crois que c'était Claire de Femme. Et je m'aperçois que là, c'est pas du tout intéressant, ça ne m'intéresse pas. Comme si le dédoublement masqué produisait du génie et que l'autre... Mais en même temps, je relis tout, je relis les entretiens et je vois des phrases entières qui, pour moi, étaient la signature de Paul Pavlovitch, c'est-à-dire des réflexions un peu amères, un peu sarcastiques.
Des paradoxes.
Des paradoxes. Et je m'aperçois aussi, en lisant Dans la nuit sera calme, Gary parlant de la littérature, utilisait des termes que Paul utilisait quand nous en parlions nous-mêmes, c'est-à-dire tout d'un coup des mots entiers de l'oncle que j'entendais dans la bouche du neveu. Et évidemment, c'est un choc pour moi bouleversant. Et alors, l'histoire un peu triste dans cette affaire, c'est que je pense que j'ai beaucoup chagriné Pavlovitch en lui écrivant que je ne pouvais pas croire qu'il était un imposteur, ce qui revenait peut-être d'une certaine manière à lui dire « Si tu n'es pas le grand écrivain que j'ai cru, tu n'es personne. »
Je me suis bien amusé, au revoir et merci. Tel est l'épilogue provisoire de l'affaire Ajar-Romain Gary. Cette petite phrase posthume est extraite d'un document, signé cette fois par l'écrivain lui-même, et qui va paraître dans les semaines à venir. En attendant, l'affaire Ajar, ce qui est une belle farce littéraire au demeurant, l'affaire Ajar se transforme en querelle de famille. Hier, le neveu de Romain Gary révélait l'identité réelle d'Émile Ajar. Or, ce matin, le fils de l'écrivain ne décolère pas. Diego reproche à son cousin, Paul Pavlovitch, d'avoir trahi ses engagements et d'avoir monté un gros coup de publicité pour vendre son livre. Diego Gary, au micro d'Anne Brunel.
J'étais au courant dès le début de l'affaire Ajar, que mon père m'en parlait très souvent, qu'il m'a souvent préparé à cette déclaration qui était un moment très important pour lui et il savait que je serais la seule personne responsable et probablement en mesure de le faire. Il y avait également Robert Gallimard qui était au courant, qui était un de ses meilleurs amis et qui a dû être mis au courant pour des raisons d'ordre de la publication. Il y avait sinon des avocats et un homme d'affaires. On a demandé à Pavlovitch d'intervenir pour asseoir le mythe d'Émile Ajar. Malheureusement, Pavlovitch devait être un fantôme. Il a donné une véritable photo et une véritable biographie, ce qui a rendu mon père très malheureux, parce que sa tentative de roman total, parce que si on regarde l'affaire Ajar, Ajar lui-même, le personnage qui est présenté, est un personnage de roman. Toute l'histoire est complètement romanesque, et c'est Pavlovitch qui a détruit le mythe.
Vous avez le sentiment d'avoir été trahi ?
Bien sûr, et d'autre part, je suis également triste, parce que nous partagions, mon père et moi, ce secret, et c'est une complicité qui s'achève maintenant.
État civil, marié deux fois, d'abord à une écrivaine célèbre britannique, ensuite à une actrice célèbre américaine. Les deux mariages se sont soldés par le divorce. Rien de comique à dire là-dessus. Aventures extramaritales. J'ai fait l'amour avec des femmes de tous les âges, toutes les couleurs, toutes les nationalités. C'était, après l'écriture, mon activité préférée. Mais jamais je n'ai mélangé les deux. La littérature érotique est à mes yeux une contradiction dans les termes. Mes livres parlent librement de seins et de pénis, d'impuissance et de frigidité, des mille espèces de paradis et d'enfer où le sexe peut nous mener. Jamais ils ne tentent de reproduire l'effet que le sexe a sur nous. Femmes importantes dans ma vie, Nina, Ilona, Leslie, Jean, Leila. Femmes importantes dans mon œuvre, Zosia, Lily, Lila, Mina, Lola, Laura, Adriana, Aline, Aliette. Tirez vos propres conclusions. Hormis l'amour que Gary portait à sa mère et qui a été décisif à un tel point dans sa vie, il y avait aussi un amour des femmes, de l'acte sexuel, des femmes dans l'abstrait. Et il avait besoin de faire des conquêtes sans cesse, inlassablement, où qu'il se trouvât. Et d'autre part, il y a dans son œuvre une présence très très fréquente et très positive de prostituées. Que ce soit dans La vie devant soi ou dans Lady L, où le personnage principal est une petite prostituée parisienne qui devient une grande aristocrate britannique. C'est quelque chose, clairement, qui a vraiment fasciné Gary. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu quel pouvait être le sens de cette fascination ?
Par rapport à ce point, je crois que justement, il faut tenir ensemble, je dirais, un certain donjuanisme.
Michel Cazenave.
D'une certaine façon. Et la fascination pour la prostitution, qui semble effectivement assez évidente dans l'œuvre de Romain Gary. Et pour cela, je crois qu'il faut déjà écarter une première explication que l'on donne d'habitude dans le juanisme, à savoir une sorte d'homosexualité déguisée. Et je pense que dans Romain Gary, il ne s'agissait absolument pas de ça. Mais il s'agissait effectivement beaucoup plus de son rapport au féminin, derrière le féminin au maternel, et derrière le maternel, je dirais, à une composante presque cosmique ou presque divine, disons même le mot, du féminin et du maternel mélangé. Et que, d'une certaine façon, le maternel ainsi conçu, ainsi ressenti, dans le plus profond du cœur et de la chair en même temps, c'est quelque chose d'absolument inépuisable. C'est, je dirais, de l'ordre de l'éternel féminin, dont on n'a jamais fini de faire le tour, parce que, justement, en tant qu'éternel, ça vous transcende complètement. Et que devant ce genre de situation, je dirais que d'une manière vécue, on ne connaît que deux solutions qui sont adoptées par les hommes, quels qu'ils soient, c'est soit l'amour à la Tristan et Iseult, c'est soit, effectivement, la conquête est perdue de toutes les femmes les unes derrière les autres. Romain Gary avait choisi la conquête des femmes. Et il avait choisi la conquête des femmes, c'est là où on retrouve justement la fascination pour la prostituée, dans la mesure où on voit bien que la prostituée, pour lui, d'abord est un personnage très positif, très fort, une sorte de concentré de type humain, en quelque sorte, et que d'une certaine manière, si on fait bien attention à la manière dont il en parle, dont il la décrit, dont il la met en scène, c'est aussi l'un des moyens d'accès à cette, ce que j'appellerais cette féminité surréelle.
Michel Cazenave, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre avec Romain Gary ?
La première rencontre avec Romain Gary était assez étonnante parce que j'avais besoin de le voir à propos d'un gros cahier de Lerne que j'étais en train de préparer avec Olivier Jean-Thomas sur le général de Gaulle. Donc il semblait évident, en tant que témoignage d'écrivain et d'écrivain engagé et combattant, de s'adresser à Romain Gary. Et le contact a été extrêmement simple, c'est-à-dire que sonnant à la porte, je la vois s'entr'ouvrir, je vois apparaître un homme, disons d'une certaine manière un peu hagard, qui me regarde avec de grands yeux et qui, à l'évidence, avait complètement oublié qu'il avait quelques rendez-vous que ce soit et avec qui il n'a été possible de rien faire. Parce qu'à partir du moment où il avait décidé d'oublier, car je crois bien qu'au fond de lui-même il avait décidé d'oublier, évidemment il n'était pas question de donner suite de quelque façon que ce soit à ce projet. Je crois que ce qui m'a frappé à travers les autres contacts que j'ai eus ensuite avec Romain Gary, c'était à la fois une sorte de fidélité à la mémoire du général de Gaulle, d'une espèce tout à fait particulière, en rien comparable à celle d'autres hommes, sinon éventuellement rappelant peut-être un peu celle qu'avait André Malraux, et en même temps les phénomènes psychologiques par lesquels elle pouvait s'expliquer. Pour essayer de le dire d'une manière un peu rapide, on a souvent dit que le général de Gaulle jouait le rôle de père mythique, etc., pour beaucoup de Français. Et il est évident que ce n'était pas ça du tout pour Romain Gary. Pour Romain Gary, c'était beaucoup plus l'idée que tous les gens qui s'étaient engagés dans la France libre représentait d'une certaine façon la troupe des enfants mystiques de la France. Et dans mon langage de psychanalyste, je dirais la troupe des enfants de la mère. Et que de ce point de vue-là, le général de Gaulle ne remplissait pas du tout la fonction du père, qui à la limite n'intéressait pas au moins consciemment Romain Gary, mais remplaçait, tenait le rôle du chef de la troupe. Et donc d'une certaine façon du frère aîné, du grand héros auquel on voulait rassembler. Et en même temps avec une sorte de phénomène, je dirais presque, d'identification. Tout en sachant très bien entendu, Romain Gary ne cédait à aucune confusion mentale, qu'il n'était pas le général de Gaulle, qu'il n'y participait pas d'aucune manière que ce soit, mais un phénomène de communion, et je dirais même d'une certaine façon d'identification au général, sur un tour très particulier qui était celui de l'humour, et particulièrement de l'humour noir. Je me rappelle cette anecdote, que Romain Gary d'ailleurs a souvent raconté, de la première mission qu'il avait accomplie pour les forces aériennes françaises libres. Romain Gary était parti avec son escadrille et il revient seul. Tous les autres avaient été abattus. Et Romain Gary est reçu par le général de Gaulle, il rend compte de ce qui s'est passé. Et de Gaulle lui dit « Bon, alors vous êtes le seul survivant ?» Il dit « Oui, mon général, je suis le seul survivant. » Et à ce moment-là, de Gaulle lève les bras vers le ciel en disant « Eh oui, c'est toujours pareil, ce sont toujours les meilleurs qui s'en vont. » Et Romain Gary, je dois le dire, le raconter ça avec une espèce de jouissance personnelle extraordinairement profonde. Comme si, effectivement, cette sorte de dépréciation implicite de sa personne qu'il y avait chez le général de Gaulle, et sachant très bien qu'en même temps cela cachait une émotion contenue d'être justement devant le seul qui était passé à travers le feu, rencontrait son adhésion la plus profonde et son être le plus profond. Et ça, je crois qu'on peut le mettre en relation, qu'il faut le mettre en relation avec ce que j'appellerais le finalement le caractère dépressif de Romain Gary. Dans la mesure où, là aussi, on sait bien que ce que nous appelons les enfants de la mer ou les fils de la mer vivent normalement leur vie, pratiquement, sur un mode dépressif ou maniaco-dépressif, tantôt dans le désespoir le plus profond, tantôt dans l'exaltation la plus grande. Autre trait, d'ailleurs, qui rapprochait extraordinairement Romain Gary du général de Gaulle, de la même manière que ça le rapprochait d'André Malraux, qui tous les deux vivaient sur ce mode-là. Et que Romain Gary, là-dessus, je dirais, additionnait les choses, dans la mesure où il était le fils de sa mère, en tant que le fils de sa mère de chair, de sa mère réelle, et on sait bien à quel point, effectivement, quelle était la force, la profondeur du lien qui les unissait. Il suffit de lire Les Promesses de l'Aube, enfin, pour se rendre compte à quel point, il a toujours été habité et hanté par la présence de cette mère. Et il y avait donc ce lien en même temps avec la France, la mère patrie, en quelque sorte, même si c'était une patrie de substitution, qui fait qu'effectivement, il vivait tout le temps selon le scénario des anciennes mythologies, finalement, des grandes mères, c'est-à-dire ce scénario de descente vers la mort, d'affrontement vers la mort, et puis au contraire d'exaltation, je dirais à la fois la passion et l'héroïsme. Et de ce point de vue-là, je crois que tout ce qu'il avait vécu dans la France libre était entièrement teinté par cette sorte de sentiment.
Citoyenneté. J'étais citoyenne non pas de la France de l'après-guerre, mais du mythe de la France du 19e siècle que ma mère avait emprunté à une aristocratie russe romantique et frustrée, puis soufflé dans mes oreilles crédules nuit après nuit, tandis que nous mourions de froid et de faim à Varsovie.
D'abord, si on lui demandait s'il était juif, il disait qu'il ne savait pas, qu'il voulait bien, si on décidait qu'il était juif, il voulait bien être juif. Bon. Et puis, je crois que ce qui le préoccupait beaucoup, c'était s'il était ou non le fils d'Ivan Mozhoukin, l'acteur très célèbre au temps du muet. Et je rappelle qu'une fois, la télé devait passer un film joué par Ivan Mozhoukin, qui est le père Serge, d'après la nouvelle de Tolstoï. Et Gary m'a demandé de regarder l'émission pour voir si je trouvais une ressemblance. Et à vrai dire, je n'en ai pas trouvé. Et ça, c'était curieux, parce que le voir comme ça au cinéma, on ne trouvait pas qu'il ressemblait à Gary, et voir des photos, on trouvait qu'il ressemblait.
Il a toujours gardé chez lui une grande photo d'Ivan Mozhoukin, de profil, qui ressemblait effectivement de façon étonnante à son profil à lui. Et ensuite, sa mère a épousé un certain Katchev, ainsi que Romain Gary s'est appelé Romain Katchev pendant toute la première partie de sa vie. Est-ce que vous pensez que son obsession pour les noms et les pseudonymes, parce que Gary même est un pseudonyme, bien sûr, il en a pris plusieurs autres par la suite. Est-ce que vous pensez que ça vient de cette absence du père, justement, ce mystère qui entoure son père ?
Écoutez, j'en sais trop rien, mais c'est sûr qu'il était assez préoccupé par ça, savoir qui était son père.
Comment est-ce qu'il était, lui, en tant que père ?
Ah ben, il a été un père, d'abord, qui adorait son fils, qui était très très attentif, très inquiet tout le temps, sûrement pas sévère.
Un peu mère juive.
Oui, il était peut-être mère juive, oui.
J'ai adoré. Difficile pendant des années de temps en temps de retrouver cet homme. Juste vers la fin, il m'a téléphoné 2-3 jours avant sa mort, et là, il y était juste un écho de cette brave petit Romain. Mais un écho très faible. Mais c'était le vrai Romain. Et naturellement, vous ne pouvez pas passer par une longue vie sans évoluer et changer. Et moi, je connais que, vraiment à fond, 15 ans, qui étaient entièrement des changements tous les jours, des postes de travail, des personnes, un homme qui a changé. J'ai jamais été sûre. Je pensais de temps en temps, mais qui est l'homme avec lequel je suis mariée? Quel Romain ce matin? Et quelque chose, de temps en temps, un homme que j'ai aimé passionnellement, Et un autre ton homme que je détestais. Détestais. Difficile, vous savez. N'était pas facile comme mari. Mais intéressant, oui.
Le 2 décembre 1980 était une journée pluvieuse à Paris. J'ai déjeuné au Récamier avec mon vieil ami et éditeur Claude Gallimard et fumé un cigare pour la première fois depuis 3 mois. Ensuite, j'ai marché d'un pas tranquille de Saint-Germain-des-Prés à la rue du Bac, m'arrêtant en chemin pour acheter un peignoir en soie rouge. C'est cela que j'ai mis autour de ma tête quand je me suis allongée sur le lit, vêtue seulement d'un slip, rouge lui aussi, afin de ne pas bouleverser Leïla plus que nécessaire. Je ne voulais pas que cela soit laid, vous comprenez. Mais apparemment, il n'y avait pas une goutte de sang. Gary, brûle, ajar, braise, out, out, brief candle. Se brûler la cervelle, une balle à travers la gorge. Roman, pas mort.
Très bon rapport avec la vie et d'excellents rapports avec la mort. La mort est une des choses les plus calomniées dans le grand dictionnaire, l'encyclopédie de l'humanité. Je ne pense pas que ce soit la fin, parce que je ne sais pas ce qu'il y a ailleurs, je ne sais pas ce que veut dire ça, comme disait le psychiatre Grodeck, mais je sais certainement que l'aventure humaine, comme toutes les aventures de la nature, prend enfin un jour. Et je crois que le véritable optimisme consiste à se dire quand même, bon, les prochaines 20 000 années seront très difficiles.
Une œuvre, Romain Gary l'insaisi, par Nancy Houston, avec Roger Grenier, Tsvetan Todorov, Leslie Blanche Gary, Michel Cazenave, Paula Jacques, Alain Aptekman, et la voix de Romain Gary et de son fils Diego. Mixage, Henri Bérec, réalisation, Jacques Taroni.